18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
L'examen attentif de ces cas et de tous les éléments disponibles nous conduisent à penser que ces caillots sanguins sont des effets secondaires très rares du vaccin.
L'Agence européenne du médicament estime que le vaccin de chez Janssen comporte davantage de bénéfices que de risques. Et c'est une bonne nouvelle qui devrait booster la campagne de vaccination chez nous en France, même si les thromboses font partie des très rares effets secondaires.
Déconfinement, le ministre de la Santé favorable à une levée des restrictions par territoire. Très bonne idée, lui répond le maire de La Roche-sur-Yon en Vendée, nous serons sur place.
L'homme soupçonné d'avoir organisé depuis la Malaisie l'enlèvement de la petite Mia fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il revendique une volonté de déstabiliser l'État français.
Il dirigeait son pays depuis 30 ans d'une main de fer. Le président tchadien Idriss Déby est mort au combat. Il était un partenaire solide de la France dans la lutte contre le djihadisme au Sahel.
Minneapolis attend avec fébrilité le verdict au procès de Derek Chauvin, le policier à l'origine de la mort de George Floyd. Verdict qui pourrait de nouveau embraser l'Amérique.
Face au projet de Super League, l'UEFA et la FIFA main dans la main. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ce putsch, y compris celle de Pep Guardiola, dont le club est pourtant concerné.
La Bourse de Paris a terminé en forte baisse ce soir, moins 2,09% à 6165 points.
La météo avec Anissa Dadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Des nuages et de l'humidité demain dans le sud.
Oui, sur le quart sud-est principalement. La journée de demain va commencer sous la pluie et se dérouler sous la pluie. Ailleurs, le temps est variable avec des températures qui restent douces et de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On attendait donc l'avis de l'Agence européenne du médicament sur l'utilisation du vaccin Johnson & Johnson. Et bien cette dernière confirme qu'il est sûr et qu'il peut donc être déployé en Europe.
Oui, on rappelle que les États-Unis avaient demandé une pause, le temps de vérifier les possibles effets secondaires rares.
Effets qui existent, effectivement, l'Agence européenne ne le nie pas d'ailleurs. Hein, Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Oui, une fois de plus, les experts de l'agence se sont livrés à un exercice pas facile, être totalement transparent scientifiquement, tout en se voulant rassurant pour le grand public. À leurs yeux, les bénéfices du vaccin Johnson & Johnson dépassent toujours largement les risques, mais ils ont examiné avec soin les 8 cas de thrombose dénombrés aux États-Unis après 7 millions de piqûres, et ils voient un lien possible, selon le docteur Sabine Strauss, qui a géré ce dossier.
Les cas signalés sont principalement des femmes de moins de 60 ans. Ils se sont produits dans les 3 semaines après la vaccination. L'examen attentif de ces cas et de tous les éléments disponibles nous conduisent à penser que ces caillots sanguins sont des effets secondaires très rares du vaccin.
L'Agence européenne n'identifie pas à ce stade de facteurs de risque particuliers. Elle fait aussi le parallèle avec les désordres sanguins constatés lors de la vaccination avec le sérum d'AstraZeneca. Les deux vaccins reposent sur la même technique. Alors en France, on attend maintenant l'avis de la Haute Autorité de Santé. Chez nous, le vaccin est pour le moment prévu pour les plus de 55 ans. Il est très attendu car c'est le seul qui ne nécessite qu'une dose. Les livraisons commencent ces jours-ci. La France attend presque 8 millions de doses d'ici fin juin.
Merci beaucoup Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 en direct de Bruxelles. À propos de vaccination, à partir de samedi, 400 000 travailleurs supplémentaires vont pouvoir se faire vacciner, ce que l'on appelle la deuxième ligne, vous savez, caissière, conducteur de bus, chauffeur routier ou encore agent d'entretien. À condition d'avoir plus de 55 ans, des créneaux de vaccination leur seront réservés pendant 2 semaines.
Dans les colonnes du journal Le Télégramme, le ministre de la Santé Olivier Véran note lui une décroissance de l'épidémie depuis 5 jours, dit-il, même s'il reste à un niveau toujours très élevé, et il se déclare favorable à un déconfinement territorialisé.
Idée poussée par de nombreux élus dans les zones où le virus est un peu moins actif. C'est le cas notamment en Vendée, Charles Guyard, à La Roche-sur-Yon, où vous vous trouvez. Ces propos, en tout cas, ont été accueillis avec un certain enthousiasme.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le maire, Luc Bouard, y voit d'ailleurs une formidable opportunité.
Eh ben, nous, on s'est dit que voilà, on avait pris un petit peu d'avance et qu'on espérait bien être dans les papiers du ministre.
La Roche-sur-Yon est même dans les petits papiers de l'Élysée, puisque le maire a fait part directement à Emmanuel Macron, la semaine dernière, par visioconférence, de sa volonté d'être un laboratoire du déconfinement.
Il sait que la Roche-sur-Yon est prête à accueillir cette expérimentation assez rapidement sur les bars et les restaurants. Il suffit d'adapter ce que nous avons fait au mois de juin, peut-être avec des mesures plus larges. Si on peut pousser jusqu'à 20h, c'est quand même plus intéressant. Et les lieux de culture, c'est prêt.
La preuve avec l'espace d'art contemporain.
Voilà, bienvenue au musée.
Les lieux sont fermés depuis le 30 octobre, mais une exposition attend déjà ses visiteurs, selon un protocole mis en place. Claire Morère-Montosé, la directrice du service musée patrimoine de la ville.
Donc tout est prévu pour que le public soit en sécurité. Un parcours de visite qui va être organisé de manière à ce que les visiteurs ne se croisent pas. la salle sera plus aérée que d'habitude et la jauge, 18 personnes maximum dans cet espace.
Et les visites guidées seront proposées sur rendez-vous quant à la sortie du musée.
On sortirait par cette sortie de secours et les visiteurs peuvent continuer leur visite de la ville.
Une ville qui espère donc proposer ce test grandeur nature de déconfinement, si possible dès le 3 mai.
Charles Guyard à La Roche-sur-Yon, en Vendée pour Europe 1. Il se disent écœurés par le verdict du procès de Véry-Châtillon. Dans toute la France, des policiers ont manifesté aujourd'hui en soutien à leurs collègues de l'Essonne. 8 des 13 jeunes impliqués dans cette violente agression contre des policiers donc ont en effet été acquittés.
Changeons la loi, a dit ce matin sur Europe 1 Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, candidat à la présidentielle. Il propose d'envoyer automatiquement tous les agresseurs de policiers, de gendarmes, de pompiers ou de maires en prison.
Sur Twitter, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, lui répond « Aucun policier, aucun magistrat, dit-il, n'acceptera de substituer le principe de la justice à la logique de la rafle. Depuis, mise au point de Xavier Bertrand, ces peines automatiques, dit-il, seraient instaurées au terme d'un procès.
L'enlèvement à présent de la petite Mia dans les Vosges, un mandat d'arrêt international a donc été lancé contre ce gourou complotiste suspecté d'avoir influencé et aidé le fameux commando.
Il s'appelle Rémi Daillé, c'est un ancien membre du Modem, réfugié donc en Malaisie, déjà bien connu des services de renseignement, Marion Dubreuil, et qui aujourd'hui joue sur les mots pour justifier son action.
Oui, Rémi Daillé, que nous avons pu joindre cet après-midi, refuse de parler d'enlèvement. Il parle de restitution d'un enfant à sa mère. Or, il faut le rappeler, la garde de Mia avait été confiée par la justice à sa grand-mère maternelle en janvier dernier.
Là, c'est la restitution aux parents qui a l'autorité parentale. C'est l'État qui enlève des enfants par dizaines de milliers chaque année. La restitution, est, pour ce que j'en sais, c'est très bien passé. Ces gens courageux ont fait ce qu'il fallait en bon père de famille. Et ils ont parfaitement raison de le faire, et je les en félicite.
En revanche, dès qu'il est question de son rôle concret dans l'enlèvement de Mia, de son implication pénale notamment, Rémi Daillé botte en touche. Il refuse d'expliquer quels sont ses liens avec Lola Montemaggi, la maman, ou avec les 6 membres de ce commando. Il dit simplement qu'il répond souvent aux parents en détresse face à des placements qu'il qualifie d'abusifs. Or, la justice lui reproche plus que son rôle de gourou anti-système. Le procureur de la République de Nancy a précisé qu'il aurait participé à l'enlèvement de la petite fille. Il aurait mis en lien la mère de Mia avec la femme qu'il a hébergé dans sa fuite à Neuchâtel en Suisse. Un mis en cause a expliqué en garde à vue que c'est Rémi Daillé qui avait financé l'opération à hauteur de 3000 euros, le tout depuis la Malaisie, un pays qui coopère mal avec la France en matière pénale.
Merci beaucoup Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
La mort à présent du président tchadien Idriss Déby, tombé sur le champ de bataille.
Oui, lui qui se présentait comme un guerrier est mort en guerrier. Il a succombé à ses blessures sur le front dans le nord du pays où son armée luttait contre des rebelles. Il avait 68 ans et venait tout juste d'être réélu pour un 6e mandat à la tête de son pays. C'est son fils qui assure l'intérim appuyé par l'armée.
Une disparition qui inquiète ses proches alliés, à commencer évidemment par la France. Idriss Déby était en effet un acteur de la guerre au Sahel, un partenaire clé pour l'Occident, comme le confirme Antoine Glaser, grand spécialiste de l'Afrique.
C'était vraiment quelque part l'homme de la France dans la région, qui a les seules troupes aguerries en soutien à l'opération Serval puis Barkhane. Idriss Déby, il était quand même quasiment de droit divin au Tchad. Donc sa disparition, ce n'est pas simplement la disparition d'un président, mais aussi la disparition surtout de quelqu'un qui maîtrisait complètement les codes avec tous ses voisins, avec qui il avait des relations privilégiées. Donc c'est un coup dur en fait pour toute la stratégie militaire d'Emmanuel Macron dans la région. C'est au moment où il a annoncé au mois de février qu'il aimerait bien que la France, Barkhane, ne soit plus en première ligne, là, ça va sans doute obliger la France d'être un peu les mains dans le cambouis pour pas que le Tchad s'effondre.
Le journaliste spécialiste de l'Afrique, Antoine Glaser, joint pour Europe 1 par Johanna Chabas, et on reviendra sur la mort du président tchadien. Dans le journal de 19h avec Didier François, la France perd un ami courageux, dit un communiqué de l'Élysée. Paris rappelle son attachement à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Tchad.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal et on part aux États-Unis où les 12 jurés se sont retirés pour délibérer au procès de Derek Chauvin.
Ce policier accusé du meurtre de George Floyd, l'Amérique est suspendue bien sûr à leur décision et à Minneapolis en particulier. L'ambiance est très tendue. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, à Minneapolis, les habitants retiennent leur souffle, les commerces se sont barricadés dans l'attente du verdict, des milliers de membres de la garde nationale et de policiers sont déployés dans la ville, beaucoup craignent des manifestations à Minneapolis et dans le reste du pays si l'ancien policier est acquitté ou ne reçoit pas une lourde peine. Derek Chauvin encourt jusqu'à 40 ans de prison si le jury est convaincu à l'unanimité qu'il est coupable des 3 chefs d'accusation, meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort de Floyd. Aux États-Unis, les condamnations de policiers pour meurtre sont très rares, mais la médiatisation de l'affaire, l'enjeu pour la police et la pression de la rue pourraient influencer l'issue du procès. Le jury est composé de 6 personnes blanches et 6 afro-américains, un détail important vu le contexte racial entourant l'affaire. Dans l'attente du verdict, le président Biden a appelé la famille de George Floyd, leur disant qu'il priait pour eux. Une fois le verdict annoncé, il a prévu de s'adresser à la nation.
Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La droite allemande a entériné aujourd'hui le choix du modéré Armin Laschet comme candidat aux élections de septembre pour succéder à Angela Merkel. Et son rival bavarois a reconnu aujourd'hui pour la première fois sa défaite après plusieurs jours d'affrontements internes. En foot, la bataille continue de faire rage autour de la Super League. C'est 12 clubs qui veulent faire bande à part. Ce matin, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a porté son soutien à son collègue de l'UEFA, Alexander Seferin, qui ne décolère pas depuis l'annonce de ce projet de compétition dissidente.
Oui, un projet qui divise, y compris les premiers concernés, c'est-à-dire les 12 clubs en question. Certains au sein de ces clubs, et non des moindres, ont déjà fait savoir qu'ils étaient totalement contre Julien Froment.
Oui, à commencer par l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, une voix qui pèse dans le monde du football mondial. Le technicien catalan, pendant plus d'une minute trente, s'est livré à un plaidoyer en faveur du football d'aujourd'hui tel qu'il est. En voici un extrait.
Le sport n'est pas un sport quand la relation entre l'effort et la récompense n'existe pas. Ce n'est plus un sport si la défaite n'a plus d'importance. Ce n'est pas du sport quand le succès est garanti. Ce n'est pas du sport quand perdre, ça ne compte pas.
Pour maintenir la glorieuse incertitude du sport, ne pas céder aux sirènes de l'argent, c'est le sens aussi du discours de Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, un des 6 clubs anglais membres fondateurs de la Super League. Il n'a d'ailleurs pas été mis au courant par son actionnaire de l'entrée des Reds dans ce nouveau projet. Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a quant à lui demandé une réunion d'urgence à tous les capitaines de la Première Ligue anglaise pour donner une réponse commune au projet. Marcus Rashford, vedette de Manchester United, là aussi un club fondateur de cette Super League, a partagé une photo où l'on peut lire « Le football n'est rien sans les supporters ». En revanche, d'autres entraîneurs concernés préfèrent ne pas se prononcer. C'est le cas de Zinedine Zidane au Real Madrid ou de Thomas Tuchel à Chelsea. En tout cas, cette fronde dans la fronde, c'est du pain béni pour l'UEFA qui espère voir les 12 brebis égarés revenir d'elles-mêmes dans l'enclos.
On suivra ça.
Et Julien Froment, on se prononce ou pas ?
Non, là, alors là, bah encore
non,
moins.
Non, encore moins. Déjà que les pronostics, vous avez
voilà,
du mal.
Voilà, exactement, mais là, hein, encore moins.
Bon. Zidane, il dit « j'ai un avis, mais je ne le partage pas
voilà, ». Voilà,
quelque chose comme
j'ai
ça.
J'ai un avis, mais je ne le partage pas.
Ce soir, en tout cas, changement de salle. On suivra 2 quarts de finale de la Coupe de France. C'est l'exact opposé en termes de compétition. À partir de 18h45, Rumilly contre Toulouse et à 21h, Canet en Roussillon, Montpellier.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres. La météo, Anissa Haddadi, avec une journée humide demain. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à de la pluie ?
Oui, sur le grand quart sud-est en fait, Julien. Donc sont concernés le Massif central, la région Rhône-Alpes, la Provence et le littoral méditerranéen où là, dans toutes ces régions, vous allez vous réveiller demain matin avec de la pluie. Dans l'après-midi, les pluies deviennent des averses plus éparses. C'est sur les Cévennes hein, qu'il va pleuvoir le plus demain. Les averses vont gagner la moitié nord dans l'après-midi, des toutes petites averses sur le territoire de Belfort, la Lorraine, le nord de la région parisienne ou encore la Basse-Normandie et la Bretagne, des petites gouttes. Ailleurs, nous avons un ciel qui alterne entre nuages et éclaircies. Côté température, bonne nouvelle, nous n'avons plus de gelée matinale. Demain, nous aurons 3 à 11 degrés le matin, 3 à Nancy et Rouen, 5 à Metz et Lille, 7 degrés demain matin pour Paris, Grenoble et Biarritz, et déjà 11 degrés à Nice. Au meilleur de la journée, nous avons une douceur printanière, comme aujourd'hui, avec 12 degrés à Boulogne-sur-Mer, 13 à Saint-Étienne, 15 degrés à Nîmes et Lyon, 16 à Nice, 18 degrés à Bourges, Ajaccio et Paris, 20 degrés à Bordeaux et 21 pour Mont-de-Marsan. Alors quand est-ce que ces nuages vont nous laisser tranquilles ?
Oui, quand est-ce que...
Quand est-ce qu'on aura une journée avec du grand beau soleil sans aucun nuage ? Je peux vous donner la réponse. Jeudi et vendredi. Il va faire très beau sur tout le pays.
Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça va continuer pendant le week-end.
Patience, Julien.
Merci, ma chère Anissa. À tout à l'heure, 18h30.
Europe 1. Écoutez le monde changer.